surrender it to you. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous sur votre canapé.
On espère.
Une bière à la main.
Oh, c'est pas possible, c'est trop
en
cher.
En prenant plaisir à la lecture d'Hervé ou de Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir avec impatience quel est le livre qui va être lu et par qui.
Ah ah.
Moi, je réagis pas là.
Donc, c'est bon, pas j'ai gagné. Aujourd'hui.
Donc,
j'ai gagné.
C'est Catherine qui a
donc,
gagné.
Tu dors, c'est voilà. Ça. Donc, si tu dors, ce
je
sera
dors,
Catherine.
Mais je l'écoute.
Moi, je vais l'endormir avec
bien.
Mon histoire.
Catherine, que vas-tu nous lire
alors,
aujourd'hui?
Je vais lire une nouvelle, mais qui est tirée d'un recueil thématique autour du thème de la malle. La malle, pas le mal, la malle.
Comme donc, se faire la malle.
Se faire la malle, exactement. Donc, ce sont des nouvelles qui tourne autour de cet objet de voyage, mais aussi d'histoire extraordinaire autour des malles. Et en fait, c'était Gaston Louis Vuitton, donc un maltier, on dit bien, célèbre, qui avait un peu récolté toutes ces histoires extraordinaires de malles. Ça passe par Houdini, par exemple, qui a essayé de s'échapper d'une malle comme ça. Voilà, y a
sans
plein...
se faire mal.
Sans se faire mal, enfin, des fois on peut en mourir quand même. Oh là, je sens que ça vole pas haut. Alors celle que j'ai choisie, elle est complètement en lien avec ce qui se passe à Blois en ce moment, puisque je vais raconter l'histoire du vol d'un tableau très célèbre qui se trouve au Louvre, la Joconde.
Ah, je crois que je connais.
Ah, et comme la Joconde est bien sûr à Blois en ce moment, à Escalier Denis Papin, oui. C'était pour honorer cette dame.
Excellent choix.
Alors, le texte a été écrit par Patrick Eudeline et ça s'appelle Sophie Joconde. Lundi 21 août 1911. Tout ce que Paris comptait de gigolette, grisette, lorette et midinette semblait s'être réuni dans l'arrière-salle de chez Ruc. Un pianiste en mauvaise redingote prune égrenait des valses de bas étage. Tout un répertoire y passait en mode bastringue. La tonkinoise, la valse brune, du maïol, du fraxonne, de l'ouvrard et du dranem pour faire bonne mesure. Et au milieu de tout ça, toi, ma Joconde, la si d'Yves Béraud. Sur la scène improvisée, à vrai dire, on avait poussé les tables, rien de plus, ça défilait. Que des brunes, inutile de le préciser. Corsetées à n'en plus pouvoir, vaguement moyenâgeuses dans le décolleté carré chignonné, toute la poitrine remontée comme la mode l'exigeait, des grosses, des fluettes, des grasses, des chlorotiques. Ça se pressait en file indienne, ça caquetait entre soi, mal calmée par un serveur chargé de faire le service d'ordre, toute pressée de se montrer devant le jury. Toutes apprêtées, selon leurs pauvres moyens, en fausse Mona Lisa. Derrière une table encombrée de papier, Louis Béroux bâillait. Une chose était sûre, elles étaient toutes, comment dire, ouais, tartignoles. Il n'y avait pas d'autre mot. Il faisait partie du jury de l'événement, coincé entre le patron couperosé de l'endroit, un vague écrivaillon HEC, Henri-Édouard Conneaut, il est vrai, cela sonnait moins bien, qui courait les gazettes, et un académicien, de quelle académie, on n'en savait pas, chenu et depuis longtemps endormi. À faire cela, il est vrai, Louis Béroux ne gagnait rien qu'un peu de gloriole, et encore. Lui qui rêvait de salon des indépendants et de reconnaissance passait plus ou moins auprès des rares qui connaissaient son nom pour un horrible pompier, un bougreau, tiens, dont on se raillait. En fait, son boulot, sa spécialité, c'était la copie, des Jocondes notamment, qu'il vendait aux touristes, à certains collectionneurs, au Louvre même. C'était cela qui payait tabac et café. Pas les rares œuvres personnelles qu'il essayait chaque saison de faire exposer, sans guère de retombées. Décidément, Il n'y en avait plus depuis Cézanne que pour ce Braque, le bien nommé, ou pour son copain Picasso. Fauviste, cubiste, pointilliste, cloisonniste, abstrait, hydropathe, décadent, et quoi encore? Des gommeux, des imposteurs, des petits malins, des as du commerce et du baratin, mais pas des peintres. Voilà ce qu'il pensait. L'élue. L'heureuse élue, elle, gagnait un repas gratuit et l'immense privilège de poser devant lui. Ce genre de manifestation, les concours de Joconde se multipliaient. La dame devenait une obsession, une image parfaite selon certains de la beauté ambiguë. On parlait du sourire de la Joconde comme d'autres s'obsédaient sur le pâtre grec et le mythe de l'androgyne. Il n'avait plus que pour elle. Des Jocondes, il n'en pouvait plus. Il en rêvait la nuit. Il était copiste officiel pour le Louvre. Il avait passé des heures, des jours, des années désormais planté devant le sinistre tableau dans la grande salle. Des Jocondes, il en avait reproduit, signé, bâclé des dizaines. Signé, oui, oui. Sa dernière œuvre était une passante se coiffant devant le reflet de la vitre du coffret qui protégeait désormais la Joconde. Cette fameuse vitre qui avait provoqué tant de raffus 2 ans auparavant. Une passante. Non, Sophie. Aussi blonde que la Joconde était brune, aussi menue et fine que les pseudo-Mona Lisa étaient grasses. Sophie, qui aurait mérité d'apparaître dans Péléas et Mélisande. Sophie, danseuse comme Isadora. Sophie, bien trop jeune pour lui, qu'il aimait trop et qui, une fois encore, ne lui pardonnerait pas d'avoir usé son temps avec la Florentine. Oui. Sophie allait une fois de plus s'énerver contre cette satanée peinture qui lui prenait son homme. Le plus drôle était que, en vrai, Bérou ne la supportait pas non plus, cette sacrée Joconde. Il n'était pas un peintre, non, juste un copiste officiel de la foutue Mona Lisa. Il se voyait ainsi dans ses moments de doute. Ah oui, il entendait déjà Sophie. Sophie parlait de la Joconde comme d'une personne d'aujourd'hui, d'une rivale, comme de la belle Otero ou de la Cléo, tiens, comme d'une Étaïre, une nana, une radasse. Elle ne la supportait pas, non, elle qui était liane comme la Pougie. Bon, le défilé des grisettes s'était enfin terminé, l'académicien s'était réveillé et avait voté avec un petit rire égrillard pour la plus gironde. Bérou, lui, avait évité de trop regarder, crispé. Comme si de loin Sophie le surveillait. Il allait la perdre, c'était évident, il ne pensait qu'à cela. Demain, il aurait sa revanche contre la Joconde et l'infortune, d'un coup, d'un seul.
Je vais avoir le plaisir de vous chanter « Le trou de mon quai », petite chansonnette métropolitaine. Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien mon prince. De Paris, je vais te montrer toutes les curiosités. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris, il n'y a que celle-là. J'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie. Après, sans trop nous fatiguer, je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a qui est dans ma rue, il y a un trou dans mon quai, tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Mais hélas, ici-bas la joie n'est qu'un leurre, Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. Pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude, et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon qui sera bouché. Adieu joie des rêveries nocturnes, adieu journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Ah, c'est malheureux tout de même.
Mardi 22 août 1911. C'était réglé comme du papier à musique. Le Louvre ouvrait ses portes à 9h. Mais Louis Bérou, comme d'autres copistes, graveurs ou photographes, avait une procuration, un laissez-passer qui lui permettait d'être sur place dès Potron-Minet. Descendant des Batignolles où il habitait, un faubourg où depuis peu, comme lui, les artistes se réfugiaient, Bérou était parti à pied, négligeant le métropolitain qu'il pouvait pourtant rejoindre à Brochamps. Une sacrée trotte, peut-être, mais il en avait besoin. Il faisait canicule ces temps-ci. Il s'arrêterait en plein territoire des Lorettes, chaussée d'Antin, pour prendre un boc. Il était en chemise et cravate, redingote sous le bras, son matériel de peinture dans sa malle. Un fort élégant objet de la taille d'une petite valise, un cadeau d'une ancienne maîtresse, d'un ancien grand amour. Sophie connaissait la provenance de la malle, en était évidemment fort énervée. Une brune en plus, comme la Joconde, tiens. D'ailleurs, parfois, la foutue malle... Bérou préférait la cacher quand la jeune femme énervée commençait à casser quelques assiettes, par exemple. Ah, cette malle, un vrai bonheur pourtant. On y trouvait tous les départements, tiroirs, reposoirs nécessaires pour y caser crayons, pinceaux, pastels, pigments, couteaux et couleurs. Mais aussi une sorte de double fond pour les toiles vierges qu'on pouvait entasser là, rouler ou à plat. Ce jour-là donc, la malle, il avait bien fallu la ressortir. Dehors, Paris était gai. Dans quelques heures, ce serait le cagnard, mais en ce petit matin, le temps était presque idéal. La ville semblait s'éveiller et de fort bonne humeur. Ce n'était que hennissements joyeux, cris des livreurs et des forts qui se dirigeaient vers le marché des Batignolles, enfants qui se pressaient vers l'école, lourds cartables sur le dos se faisant des niches, odeurs qui montaient, des rôtissoires, des boulangeries, tout un petit peuple de Paris qui se mettait à vivre. Il prit le boulevard, passa la rue des Apennins, où Zola avait vécu. Tout droit, c'était l'Opéra, via la place de Clichy, la chaussée d'Antin et les nouveaux magasins. Il n'aurait plus alors qu'à descendre l'avenue de l'Opéra, vers la Seine. Le Louvre l'attendait. Arrivé au Louvre avant tout le monde, dès 8h10, Louis se dirigea vers le fameux salon carré. Il allait être seul, nul doute à cela. Oh, un photographe et un pyrograveur devaient eux aussi venir là pour recopier l'œuvre. Mais Bérou le savait, ils ne seraient pas là avant la nuit. Ils connaissaient leurs habitudes. Ils n'y dérogeaient guère. Mais pourquoi personne n'avait-il pensé à fermer le foutu coffret qui contenait la Joconde à clé, ni à le souder aux simèzes? Mais de cela, Louis Bérou se frottait les mains. Juste arrivé, il ouvrit sa malle, puis décrocha le coffret vitré. Il n'eut qu'à tourner la clé dans la serrure pour en sortir la Joconde. En une minute, celle-ci était défaite de son cadre, déclouée et posée. Il la rangea soigneusement dans le double fond de la malle, à plat. On ne roule pas une dame qui avait vu passer des siècles et qui se craquelait de partout. Et qui de plus était surtout était peinte directement sur un fragile et mince panneau de bois de peuplier, non sur une toile. Contrairement à ce que chacun pensait. Il avait même eu peur quelque peu en la déposant de son châssis. Mais non, elle avait tenu le choc. Le coffret vide, avec à l'intérieur son précieux cadre doré, il le laissa dans une pièce attenante, un escalier qui menait à la cour Visconti. C'était simple. Il était quasi seul encore dans le musée. Les encaustiqueurs qui passaient leur temps à frotter et briquer les planchers cirés n'arrivaient que plus tard. Et on entendait venir de loin le bruit des pas ferrés de Poujardin, l'unique gardien à cette heure. Il eut beau jeu, son projet accompli, de revenir alors dans le salon carré et de hurler « Poujardin ! Poujardin !» et d'attendre que celui-ci rapplique. « Mais qu'est-ce qui se passe, brigadier? Où est-elle ?»« Bah qui ?» Poujardin était arrivé, effectivement ameuté. Bérou avait montré l'étroit espace entre l'allégorie du Titien et le Corrège. Il n'y avait rien. Le rinceau était vide. « Bah elle, enfin !» Poujardin mit un certain temps à comprendre et puis marmonna. « Bah, je sais pas. Bah, à la photo, probablement. À l'atelier Braun. Bah, je vais aller voir. » La Guillermie, le pyrograveur, était arrivé. Bérou lui avait lâché d'un air à lui donner le bon Dieu sans confession. Ils l'ont encore déplacé. Bah, mon vieux, croyez-moi, cette dame-là se balade en toute impunité comme aucune bourgeoise n'oserait le faire. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, hein? Je vous le demande. Eh ben, on allait attendre. Ce fut un pataquès. Poujardin avait rameuté la salle de photographie, de pyrogravure, d'entretien d'étoiles, de cadrage, persuadé que la Joconde s'était déplacée en toute honnêteté, mais qu'un ordre s'était perdu au passage. Il n'en était simplement pas informé, voilà. Il lui fallut 2 heures pour se rendre à l'évidence. La Joconde n'était nulle part. Et Louis Bérou était sorti avec sa mallette, que personne n'avait pensé à fouiller. En fait, il était parti avant que le vol ne soit sûr, quand encore Poujardin courait partout. Dans l'affolement général, au pire, avait-il pensé comme une bonne blague, si le cas s'était présenté, si on l'avait forcé à ouvrir sa malle, il aurait haussé les épaules et bluffé comme au poker. Ben oui, c'était une copie qu'il trimballait là. Après tout, il en avait reproduit assez, savait comment les vieillir, craquer le glacis, charbonner la bête afin qu'on n'y voie que du feu. Fallait vraiment être un expert pour se rendre compte de la différence. Et puis en fait, il y en avait des dizaines dans les combles du Louvre de ces copies. Laissées là, on savait trop comment, par des peintres accrédités, des élèves sans doute. C'était là un capharnaüm insensé où personne ne mettait jamais les pieds. Eh ouais, c'était son métier de faire des fausses jocondes, à lui et à tant d'étudiants qui s'échinaient dessus. Mais Bérou, insoupçonnable et insoupçonné, avait sorti la Joconde depuis longtemps quand se déchaîna le branle-bas. Il rentra chez lui par le même chemin en sifflotant, heureux. Demain, il verrait son contact, Armand. Armand Guénéchamp, un garçon de café, qui avait un acheteur, un riche client prêt à mettre des fortunes, un russe, fou obsédé par Mona Lisa, qui passait des heures dans le salon carré. Il semblait bien à Bérou de l'avoir rencontré. Depuis des mois, connaissant le métier de Louis, grand marcheur et qui s'arrêtait souvent dans son troquet de la place de Clichy, le temps d'un boc ou d'une suze, Guénéchamp l'avait mis dans la confidence après de longs travaux d'approche. Bérou avait craqué. Ouais, ce type-là était prêt à tout pour sa Joconde. Il voulait bien le croire, il avait envie surtout de le croire. 400 000 pour Armand, 800 000 pour lui. Au bas mot. Voilà ce que Bérou pourrait en tirer. Après tout, c'était rien, la Joconde. C'est absolument inestimable, bien évidemment. Et ce fameux russe ne pourrait rien en faire d'autre que l'admirer secrètement. Mais ça, c'était son problème. Bérou avait bien réfléchi, hésité, mais le tuyau semblait sûr, alors il avait osé. Et donc, 800 000. Ce n'était rien pour un tel larcin. Ouais, mais c'était tout. Avec cet argent, Sophie allait enfin être heureuse. Et lui, il pourrait exposer, il se financerait lui-même, il s'imposerait enfin, par l'argent, achèterait les galeristes, les critiques s'il le fallait, puisqu'en ce monde, il n'y avait pas d'autre solution, que c'était la règle du jeu. Ce qui l'obsédait et le motivait vraiment, c'était ce manteau russe, gris perle à col de zibeline qu'il allait offrir à Sophie, les bottines en veau, brossées, pourpres, les robes de chez Worms. Ouais, tout cela, parce que sinon c'était vendu, Sophie allait partir. C'était donc vital. Quoi de plus important? Il n'en pouvait plus tirer le diable par la queue et toujours compter. Honneur, moralité, art. Mais de quoi lui parlaient donc les gens, tous ces hypocrites? Seul l'argent, le blé, le flouze, la caillasse, le butin, la mallette, la fraîche comptaient. Et tous les beaux sentiments, ça s'achetait comme le reste. 800 000 francs contre ce tableau qu'il haïssait, cette chose bâclée par le Léonard et dont on faisait un fromage insensé. Allons donc, il en faisait en plus, tiens, quasi-œuvre de salubrité publique en ôtant du paysage ce machin, ce tout petit machin charbonneux dont on faisait un tel foin. Oh, mais que n'avait-on dit dessus, un chef-d'œuvre absolu, mais qui surtout détenait une énigme, disait-on, une énigme. Mais quelle énigme y avait-il donc là? Tout cela était fort exagéré. Une marotte des romantiques, cette Joconde, voilà tout. Des portraits, après tout, il y en avait eu avant, il y en aurait après. Et des aussi réalistes, aussi torchés, et dont le sujet au moins était clair. Là, la personne ne comprenait ce que faisait cette brave dame au sourire figé et énervant devant ce décor sans queue ni tête. Elle était plantée là comme une cruche. Ah, les flamands, c'était autre chose. Bon, Bérou reconnaissait à l'homme un certain talent, d'accord, un savoir-faire indéniable, mais... Allez, dans sa détestation, cette Joconde lui apparaissait désormais tout juste bonne à orner les boîtes de chocolat, tiens. De toute façon, lui, il avait toujours préféré Rubens. Il reprit le même chemin qu'à l'aller, avec une halte néanmoins place de Clichy, pour un arrêt au Balto, le café charbon qui faisait l'angle. C'était sûr, le patron allait vendre. Bientôt, à l'endroit même, allait s'ouvrir une grande brasserie moderne, juste en face du Vepler, et qui allait faire concurrence à ce dernier. Bah, c'était là que travaillait Armand Guénéchamp. C'était pour cela que celui-ci était pressé de faire affaire et de conclure. Bientôt, lui qui travaillait là allait être viré et au chômage. Bérou entra dans le modeste café, commanda un bock. Ça tombait bien, la canicule s'annonçait. Alors qu'il était à peine 11h. Mais c'était pas pour ça vraiment qu'il était venu. Évidemment, Armand le servit. Bérou lui lâcha alors un modeste « c'est fait ». Armand le regarda écarquillé. Il n'y avait presque personne dans le café et le peintre, imprudent, sans crainte d'être surpris, osa un geste. Il mit la mallette sur le comptoir, comme n'importe quel représentant de commerce qui propose ses produits, et l'ouvrit. Et puis il souleva le double fond pour quelques secondes. Armand, ébloui, abasardi, prit de plein fouet l'immortel sourire. En fait, il réalisait à peine. Tout cela lui avait semblé une bonne idée, bien sûr, voler la Joconde. Mais ça restait, comment dire, quelque peu abstrait. Mais là, oui, c'était fait. Elle était là. À lui de jouer désormais. Mon Dieu ! Ah, ce satané braque de Bérou l'avait fait pour de vrai. Il lâcha juste un pauvre. Ah, on voit bien que c'est la vraie, hein, et que c'est du vieux. Hein. Bérou ne répondit rien et sourit. On va faire affaire. Revenez demain, même heure, avec elle. Armand Guénéchamp aurait eu le temps d'aller voir son ami russe, de le prévenir. Est-ce que Bérou lui confierait alors la Joconde? Ce dernier allait avoir peur de se faire doubler, c'était couru, mais lui, bah lui aussi voulait pas présenter Bérou à son protecteur pour les mêmes raisons. Bon, bah entendu, on verra alors les modalités et comment faire. Louis Bérou vida son box pour l'échat à la moustache, sortit, tout juste s'il ne sifflotait pas. Au Louvre, désormais, ça devait être l'émeute, mais il n'y pensait simplement pas. Arrivé chez lui, au Batignolles, il se détendit, oubliant la modestie des lieux qu'il habitait, deux méchantes pièces au second étage sur cour, une cuisine. Son intérieur, c'était des tableaux partout, comme de bien entendu. Et puis des masques nègres accrochés, des bibelots orientalistes, des souvenirs, des colifichets, des japonaiseries. Un intérieur encombré, mais où il arrivait parfois à se sentir bien. Quand Sophie allait revenir, par exemple, de sa danse ou de visite à de rares amis. Désormais, quasi, ils vivaient ensemble, à la colle, dans le déshonneur. Mais elle avait quitté ses parents, des bourgeois de province qui ne pensaient qu'à la caser avec un fils de notaire, pour vivre à Paris, définitivement. Elle avait tout lâché, l'école des bonnes sœurs, la sacrée famille, sa respectabilité. Elle était passée de l'autre côté, une courtisane, une jeune femme de mauvaise vie, à l'honneur perdu, avec son amant peintre, bien plus âgé qu'elle, de surcroît, une femme entretenue. Ah, ça avait été un sacré saut, hein. Alors Bérou lui pardonnait ses quelques frasques et écarts d'humeur. Sophie était sa chance, son dernier bonheur peut-être. Pour elle, il se damnerait. Elle aurait pu se trouver un amant bien plus riche, hein. Même un artiste célèbre, qui ne tire pas le diable par la queue, si l'espèce existait. Souvent, elle se disait ça. Ah, lui, Sophie, par son existence même, le renvoyait à sa médiocrité. Il ne valait pas mieux qu'un caillebotte, tiens. C'était un faiseur, un technicien. Ah ça, les glacis, les trompe-l'œil, la perspective, les lavis, les reflets, ils connaissaient tout cela par cœur. Mais ce qui intéressait les gens désormais, c'était les barbouilleurs. Non mais ce braque, vous avez vu ça? De lourds aplats tartinés de couleurs vives. Le monde dessiné par un gamin maladroit ou un fou. Pff, depuis les impressionnistes, ils ne comprenaient plus rien. À la peinture. Mais où cela allait-il, grand Dieu? Peindre la réalité, certes, plutôt que l'éternelle mythologie ou de l'histoire ressassée, bon... Cette idée, il la comprenait, il la jugeait même comme une évolution inévitable et de bonne aloi, mais pour lui, les impressionnistes, on ne peignait plus vraiment. Mais le monde était ainsi, depuis que le siècle avait commencé. Des pianistes qui jouaient faux volontairement, des poètes dingues et des peintres qui ne peignaient plus. Le monde lui échappait. On était en 1911. Ce siècle, c'est sûr, allait avoir sa peau. Depuis la tourne de 1900, il s'en allait en folie, décidément. Lui, ce qu'il aimait, c'était le Parnasse, les petits maîtres flamands, et puis Couperin, tiens, le classique en somme. Comme Debussy, qui lui aussi prétendait ne rêver que de Rameau. Mais il fallait voir ce qu'il en faisait. Bérou jugeait cela totalement incohérent. De toute façon, son ami Claude était dingue. Il se voyait plus, quoi qu'il en soit. Bérou avait rompu depuis que le pianiste avait voulu l'emmener à une réunion hermétique, sa nouvelle marotte. Le Debussy se prenait désormais pour un sar, un mage. Il fricotait dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ce genre-là. Il faisait tourner les tables, rêvait de Qatar et d'excursions à Rennes-le-Château. Non, en fait, Bérou ne se le cachait pas. S'il ne se voyait plus guère, son ancien ami, c'est qu'il n'avait pas aimé l'œil que le Debussy avait posé sur Sophie. Il le savait, le pianiste avait envoyé en cachette à sa blonde mots doux et pneumatiques. Ça faisait pas un pli, hein. Tous ses amis lui enviaient sa trop jolie fiancée, aux airs faussement volages. Sophie était naïve et ne savait baisser les yeux quand un homme lui parlait. C'était bien le drame. Ah, cet amour l'avait sacrément isolée. Bérou enleva l'orchidée blanche qui ornait le revers de sa redingote et la déposa dans un vase. Il défit sa cravate et finalement tomba la veste, en gilet, en chemise, immaculé, son côté dandy. Non, il n'était pas prêt de le perdre, même dans les pires moments. Il s'assit enfin dans son vieux fauteuil d'église garni de coussins d'escarboucles et ouvrit sa mallette. Dans le double fond, la Joconde était là, à plat. Il la sortit, la posa contre un chevalet, l'approcha de la lumière du jour, chiche mais effective, qui venait de la cour et la contempla. Ouais, malgré tout ce qu'il pouvait bien en dire, il était fasciné quelque peu et ne pouvait s'en empêcher. Il possédait la Joconde. Voilà, le tableau le plus célèbre au monde. Et patati, et patata. Cela, on l'avait assez dit et rebattu. Mais cela était vrai malgré tout. Ouais, il fallait en convenir, le Florentin n'était pas un manche, hein. Les transparences, la subtilité des glacis, ce clair-obscur indécis qui n'offre aucun indice sur la provenance et la direction de la lumière qui éclairait l'ensemble, cette matière qui supposait une essence très diluée, une préparation exemplaire. Combien de couches d'enduit de préparation ? Bérou en restait quelque peu pantois. Sur tout cela, il n'avait rien à dire. Ça, c'était du travail de maître. Et puis ce paysage absurde, ces montagnes aberrantes, ce lac ou ce fleuve, semblant se noyer lui-même dans quelques mers, ces arbres indéfinissables, cette absence de perspective, ce pont posé là, ce chemin en S tortueux. Tout cela si loin des codes du temps d'alors, des décors convenus qui ornaient les portraits. Où le Vinci voulait-il en venir ? Ah, elle sourit, ça, oui, on l'aura compris. En fait, elle semble se foutre du monde et regarder ailleurs. Alors, Salaï, l'amant, ou Madame del Giocondo ? Pourquoi ce dernier, le mari, avait-il refusé d'acquérir le tableau, pourtant dûment commandé ? Bérou, presque malgré lui, ne pouvait s'empêcher d'être fasciné. Oh, ce sourire ! En peintre, en technicien, il détaillait les coups de pinceau qui avaient ainsi relevé la bouche, ceux qui avaient donné naissance à ce regard, les subtils repentirs et hésitations qui avaient finalement produit cette ineffable expression. C'était la bouche trop embrassée sans doute de Salaï, l'amant qui revenait ainsi, toujours et encore, qui avait obsédé Vinci toute sa vie. Ah. Par identification, Bérou s'imaginait derrière son chevalet, lui aussi, à la recherche de ce qui rendait la bouche de sa Sophie si unique, quelque chose entre tristesse, trac et goguenardise. Il avait la Joconde entre les mains. La Joconde l'appelait. Il ne serait plus jamais le même désormais. Il était marqué. C'est ainsi qu'elle le trouva. Perdu dans ses pensées devant la Joconde, il ne l'avait pas entendu entrer. Un détail encore avait interpellé le peintre. Ses pupilles, mon Dieu, écarquillées, aussi ironiques que le sourire, louchant entre passé et futur. Mais comment avait-il fait ? Et quelle était cette couleur ? Mieux que bistre ou yeux noirs, cette couleur sans nom qui éclatait sombre en dessous du modelé de cette arcade vide de sourcils. Oh non, j'y crois pas. Encore devant une de tes copies? Oh, mais tu les aimes au masse ou quoi? C'est ça qu'il te faut, un grand cheval? De la croupe et du buste? Mon pauvre ami, tu es un pervers. J'en peux plus de cette Joconde. Tu as passé la journée d'hier à mater des gourgandines qui lui ressemblent, à te rincer l'œil, et aujourd'hui je te trouve planté comme un abruti devant une de tes toiles. Mais à quoi tu penses ? Sophie, il avait parlé tout doucement. La demoiselle était pour le moins colérique quand cela lui prenait, capable de partir en quelques secondes dans un éclat de nerfs, de se jeter sur lui, griffant et mordant, lui arracher visage et cheveux. Alors il essayait de la calmer, lui parler comme à une enfant. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon Dieu, la pauvre phase. Non, mais tu t'entends. Ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a pas un vaudeville qui ne l'emploie. Eh bien si, c'est ce que je crois. Je rentre et je te vois devant elle. Elle ressemble à ta comtesse, c'est ça? Mais retourne-y vers tes brunasses, puisqu'elles te plaisent tant. Moi, j'ai 20 ans et je gâche ma vie avec toi. Jamais un rond, coincé ici la plupart du temps, attendant que tu reviennes avec une commande, avec 3 francs 6 sous, alors que mes parents me donnent tout ce que je veux quand... Ils te donnent rien, je te le rappelle, si tu fais pas exactement ce qu'ils exigent. Libre à toi d'aller t'enterrer en province chez eux. Il avait craqué, répondu du tac au tac, il avait eu tort, bien sûr. Ah, parce que c'est mieux ici? On ne voit personne. Oh, tu exagères, tu le sais bien. Pardon? Je gâche ma vie et mes chances avec ce petit monsieur qui se prend pour un artiste. J'en peux plus, tu me rends folle. La Joconde regardait la scène naissante de son sourire narquois. Sophie avait beau se déplacer dans la pièce, Mona Lisa semblait la suivre du regard. Bérou lâcha un pauvre « chérie ». « Arrête, tais-toi. Je préfère encore... tais-toi !» Mais, décidément, il n'arrivait pas à la calmer. Et tout s'enchaînait inexorablement. Ça montait jusqu'à l'inévitable. Le fragile tableau était sur son chevalet quand Sophie se précipita sur Bérou, tout petit point dehors. Elle était sur lui désormais, lui arrachant la peau de ses ongles, le marquant jusqu'au sang. Le peintre essaya de s'écarter, qu'elle ne bouscule pas l'œuvre au passage, mais elle l'avait désormais plaqué au mur, il ne pouvait rien faire. Il chercha à se débattre, se dirigeant vers le tableau. Sophie s'en aperçut. « Mais va la rejoindre, ta grognasse !» Il voulut éloigner le chevalet, mais Sophie avait été plus rapide et d'un revers de main avait envoyé valdinguer la Joconde. Bérou s'était précipité pour récupérer le fragile trophée, mais Sophie, d'un coup de talon ferré de ses bottines, lui avait déjà crevé un œil. Le fragile panneau de peuplier n'avait pas tenu. « Mais t'es dingue ! Mais arrête !» « Comment ça, je suis dingue? Tu t'inquiètes pour ta beauté, c'est ça, hein? Eh bien, regarde !» Maintenant, elle s'escrimait. C'était désormais la poitrine de légende qui était ouverte, éventrée. Et plus Bérou s'affolait, plus Sophie s'acharnait. Le bois centenaire s'était crevé, fendu de partout, tombé littéralement en miettes. Bérou, sans un mot, avait ramassé les éclats, rassemblé ce qu'il pouvait. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait plus de Joconde. En un premier temps, il avait pensé à tout enfermer dans la mallette et puis... Ben non, il avait du mal à s'y résoudre, mais vu l'état dans lequel elle était, peut-être valait-il mieux tout jeter, l'épreuve du délit. Oh, puis non, il n'en avait pas le droit, il fallait... Et puis, il avait simplement tout mis à la poubelle. Que faire d'autre? La Joconde, ou ce qu'il en restait, était au milieu de l'immonde. Les morceaux de bois épars se mélangeaient aux épluchures, ordures ménagères et arêtes de poissons. Il ne trouva qu'un mot à dire à Sophie qui peu à peu reprenait souffle. « Eh bien, c'est malin. »« Oh, écoute, tes copies, hein, t'en as fait des dizaines, une de plus, une de moins, franchement. Monsieur va pas nous faire une histoire pour si peu. Hein. »« Ah, je crois que tu ne te rends pas compte, c'est un drame, c'est... » Et puis il s'arrêta, à mi-chemin de la révélation, de l'aveu définitif, pas la peine. Il n'en avait pas le courage. Il allait garder cela pour lui, c'était mieux. À tout point de vue, cet aveu aurait fait de Sophie sa complice. C'était une charge qu'il ne voulait pas faire peser sur ses épaules. La Joconde n'était plus que miette indéfinissable. En quelques secondes, elle allait être lamentablement éventrée de toutes parts. À la place de la bouche, de l'œil, des trous, obscènes, comme si on avait profané la dame, ne laissant qu'un cadavre mutilé. Une vision que Bérou emporterait dans la tombe, il le savait. Et puis, de quelques derniers coups de talon, Sophie avait parachevé le massacre. Bérou avait évalué les dégâts d'un œil expert et rapide. C'était l'évidence. Non, on n'arriverait jamais à maroufler, restaurer, réparer ça. C'était foutu. et pas qu'un peu. La Joconde était détruite, à jamais. Oh, et puis merde. Cette nuit-là, il essaya de dormir. Guerre facile. 800 000 francs lui étaient passés sous les dents et il avait laissé saccager le tableau le plus célèbre du monde. Mais là, épuisé de tant d'émotions, il s'endormit néanmoins, décidant finalement qu'à chaque jour suffisait sa peine et que demain, ma foi, eh bien, il ferait jour. Hein. Mais il fut agité cette nuit-là de rêves abominables, de cauchemars sourds qui l'éveillèrent, suffoquant plus d'une fois. Salaï, Léonard lui-même était là, près de son lit, menaçant. Ou alors il se retrouvait sur une mer agitée, une sorte de radeau de la Méduse, où il était là, nu et vulnérable. Dans l'eau flottaient des dizaines de Mona Lisa ricanantes qui le regardaient s'enfoncer inexorablement dans ce noir océan, aux vagues hautes comme les murs de Jéricho. Sophie, à ses côtés, s'était assoupie, calmée et innocente. Un ange semblait caresser ses paupières closes et ses boucles d'or, juste rassemblées en un lâche chignon. Non, c'était ainsi. Le bon Dieu ou même Léonard ne pourrait lui en vouloir. À elle, instrument involontaire du drame. Après tout, elle ne pouvait que mordre la pomme. On ne pouvait en vouloir aux femmes. Surtout quand elles étaient aussi belles que ça, de déclencher les foudres de Dieu, d'être celle par qui arrive le scandale suprême. Au-delà du bien et du mal, il y avait la beauté. Devant la chair pâle de Sophie qui semblait briller dans la nuit, ses formes émouvantes, même Léonard aurait pardonné et dessiné.
I'm coming to the edge of the widest canyon, my companions dear. I'm starting to question my manifest destiny, my claim to this frontier. I'm coming to the brink of a great disaster, and Jesus has to be near. The earth spins faster, whistles right past you, whispers death in your ear. Don't pretend you can't hear. Don't pretend you can't.
Mercredi 23 août 1911. Il se réveilla le lendemain comme prévu, et alors tout lui revint. Il eut même la tentation de se rendormir, d'échapper à la sinistre évidence. Il sentait la journée qui s'annonçait si pesante qu'il voulut y échapper. Il réalisait enfin la portée de son acte et les conséquences. Il avait volé la Joconde. Comment avait-il pu croire à l'impunité? Son nom allait être cité, c'était lui qui avait déclaré le vol. Mais mon Dieu, les flics devaient le chercher partout. Il avait peur désormais de la justice divine comme de celle des hommes. Il laissa Sophie endormie avec un mot sur l'oreiller annonçant l'heure de son retour. Il devait être 9h du matin ou quelque chose comme ça. Il sortit inquiet, habité d'une menace sourde, remué encore par les événements et par sa terrible nuit, pressé de quitter son domicile. Il lui semblait que la police désormais pouvait arriver à tout moment. Il n'y avait pas pensé plus que cela au barouf que la disparition du tableau le plus célèbre du monde allait causer. Eh bien, il ne fut pas déçu. Kiosque, crieur de journaux, tout ce beau monde ne parlait que d'une seule chose, et de l'Indépendant au Gaulois en passant par Paris Presse et l'Humanité, chaque feuille, chaque gazette n'avait qu'un refrain à entonner ce matin « On a volé la Joconde ». Cette presse, Bérou n'avait pas osé en un premier temps l'acheter ni même la feuilleter à la devanture des kiosques, de peur bien sûr de ce qu'il pouvait y trouver. Et puis il s'était rué, avait craqué, tout acheté et tout lu, avait tout consulté. La veille, depuis 2h de l'après-midi, c'était le branle-bas absolu. 60 hommes de Hamard, le chef de la sûreté, et de Lépine, le préfet de police, s'étaient répandus comme nuées sur le Louvre, fouillant de fond en comble. En comble, c'est le cas de le dire. Et ils avaient découvert les fameux combles. Ils étaient d'ailleurs tombés sur des dizaines de copies, laissées là, avaient failli en perdre leur latin, persuadés à chaque instant dénicher le précieux trophée. C'était un bordel insensé que les enquêteurs avaient trouvé en marge du musée. Au Mol, le conservateur était en vacances et injoignable. Finalement, cela a été une aubaine pour ses abattis. Il allait avoir une jolie surprise en revenant. Déjà que depuis plusieurs semaines, on parlait beaucoup de ses négligences, là, l'orage s'était abattu. Le coffret vitré et le cadre avaient été retrouvés comme prévu. Quant à Bérou, on racontait son arrivée le matin même, on précisait bien qu'il avait alerté Poujardin, le surveillant, que la police l'avait entendu longuement, mais qu'il n'avait pas, en aucun cas, été suspecté. En fait, cela n'était venu à l'idée de personne. Il avait été entendu? Ah bon? Il n'avait pas remarqué. En fait, il était parti le matin même quand Poujardin et ses hommes couraient encore de salle en salle avant que l'évidence du vol ne s'impose, dans la confusion. Si ça se trouvait, il était considéré comme en fuite. Et puis il se calma, réfléchit. Il n'avait évidemment pas le téléphone, il ne s'était soustrait à aucune enquête, il n'avait rien à se reprocher, enfin, officiellement. Il pensa même à se rendre au Louvre, voire au Quai des Orfèvres pour proposer sa déposition. Est-ce que cela n'était pas le comportement normal d'un innocent de faire ainsi? Après tout, c'était rassurant. Il n'était donc pas question pour lui d'être inquiété, visiblement. N'empêche, si cela se trouvait, ils étaient déjà à son domicile en train d'ennuyer Sophie, qui devait être au courant, qui avait peut-être fait le rapprochement, sans doute même, et qui risquait de gaffer devant d'éventuels inspecteurs mandatés à son domicile. Il avait imaginé la belle aux prises avec les forces de l'ordre. Bon, après tout, c'était là des hommes. Quelques pleurs de sa part, et il succomberait comme les autres à la candeur de sa douce et tendre. Le souci, c'est que Sophie n'allait pas lui pardonner. Elle l'accuserait de lui avoir menti, d'être inconséquent, de la mettre dans les ennuis. Ce coup-là n'allait pas passer. Il y avait urgence. Il lui fallait rendre visite à Armand, séance tenante. Celui-ci avait vu la Joconde hier. Une récompense de 20 000 francs était promise, disait-on. C'était le titre de l'intransigeant. Paris Journal aussi proposait une prime et qui apporterait un indice. Cela lui avait sauté aux yeux. Et si Armand le trahissait? C'était simple pour lui, renonçant à la transaction proposée, mais pas à la prime promise. Il allait chez les flics. Bérou m'a montré la Joconde. Oh, il y avait urgence. L'urgence, donc, c'était bel et bien Armand. Il trouva ce dernier au bord de l'apoplexie, énervé, surexcité même. Quand il vit arriver Bérou, il ne put s'empêcher de regarder autour de lui comme s'il était épié, soupçonné. Rien que d'avoir entreaperçu la Joconde la veille, il se sentait coupable. Évidemment, il lâcha au peintre un simple « Alors ?» Ce dernier, sans réfléchir plus que cela, lui lança « On laisse passer l'orage, on attend un peu avant de faire affaire, que la pression se relâche, qu'on parle moins de tout cela. C'est plus prudent, non ?»« Ouais, je pense. » »« Mais quand même, vous avez fait fort. » Il avait murmuré cela d'un ton de conspirateur en se penchant vers Bérou. « quel imbécile! C'était là la meilleure manière de se faire remarquer, avait fait penser le peintre. Ouais, on attend. C'est que l'idée lui était venue, soudaine, une Joconde. Bah, il allait en faire une. Une fausse vraie, signée. Il allait prendre une de ses copies, la vieillir au charbon de bois, la craqueler, la vernir, la... Armand n'y verrait que du feu. Le russe, peut-être pas. Qui pouvait savoir? Mais bon, il prenait le risque. Il allait fourguer un vrai faux. Ouais, voilà, il saurait faire. Il n'était pas Louis Béroux pour rien. Il allait abuser tous les experts. C'était un défi à sa mesure. Il quitta Armand et rentra chez lui presque rasséréné. Avec l'amorce d'une idée, ce qui était mieux que rien. Et impatient de retrouver Sophie, qu'il imaginait dans la chaleur de son sommeil, nu, s'étirant comme un bébé chat. Mais l'oiseau avait quitté le nid. Sur la commande de style marocain, trônait une lettre. « Louis, je suis parti. La police est passée cet après-midi. Ne t'inquiète de rien, je n'ai pas parlé de la journée d'hier, de ce que j'ai vu. Je pense qu'il voulait simplement te poser quelques questions pour complément d'enquête, mais moi je crois que j'ai compris certaines choses, et tu t'en doutes. Tu es fou, mon pauvre ami. Ne cherche pas à me revoir, de toute façon, je ne reviendrai pas. » Guillaume est libre désormais. Marie l'a quitté, il m'a envoyé un pneumatique. Je suis partie chez lui. Nous, c'était devenu impossible, tu le sais bien, Sophie. Guillaume. Apollinaire? Pseudo-ridicule. En son hébétude, il n'arrive pas à penser à autre chose. Elle était partie, avec Apollinaire. Puis il décida de mettre cette douleur-là, cette absence insensée au repos, de l'occulter. Il allait se plonger dans le travail qui l'attendait. Comment allait-il faire? Demain, il irait au Louvre, sortir une de ses copies qui était abandonnée. Non, trop dangereux. Il préféra s'atteler à une des ébauches qu'il avait chez lui et qui, par chance, avait été peinte sur bois, panneau de bois et non point sur toile. Un panneau de bois de peuplier, justement, assez vieux pour que, soigneusement maquillé, il semble centenaire. C'était au milieu des dizaines de toiles laissées chez lui, une Joconde à peu près correcte, finalement. Une commande du musée du Louvre, justement, et qu'il avait négligé de rendre. De toute façon, il allait tout refaire et reprendre, ne s'en servir que comme base de travail pour ne point penser à autre chose et surtout pas à Sophie. Il se mit à la tâche. Lentement, méthodiquement. C'était décidément une malédiction. Son chef-d'œuvre serait une copie de la Mona Lisa. Une copie parfaite. Si parfaite qu'elle avait pour destin obligé d'abuser le monde entier. Il l'avait regardée assez la veille pour en avoir un souvenir parfait, photographique. Néanmoins, cela ne suffisait pas. De la poubelle, il avait sorti les débris, les morceaux épars de la vraie Joconde, les avait nettoyés de leurs scories, épluchures et le reste, et s'était attelé, réexaminant encore une fois en professionnel la texture, les couches successives, les épaisseurs des enduits, supputant les effets du vieillissement, grattant par endroits afin de comprendre chaque secret de la technique. Cela, encore une fois, Béroux n'en manquait pas, c'était même un de ses points forts, on l'avait assez moqué pour ça. Question outil, il était également pareil, oui. Il avait tout ce qu'il lui fallait, huile, essence, pigments, couleurs, tous les vernis, et même du vernis à vieillir et à craqueler, qu'il allait travailler, diluer, étendre. Le mois dernier, un jour de bonne fortune, il avait dévalisé les marchands d'Odéon et de la rue de Rennes. Il était prêt. Bon, le tableau originel, sa copie aurait pu abuser un profane, certes, mais il allait lui falloir tout reprendre. Il ferme bien mieux. Il y avait trop de matière encore sur le panneau. Il avait fait cela à la sauvage. Tout cela était épais comme un tableau de barbouilleur, comme un machin de ce Van Gogh, tiens, qui devenait furieusement à la mode. Décidément, lui qui se croyait, voilà deux jours encore parfait copiste de Vinci, était en fait bien loin du compte. Maintenant, il savait. Il gratta, dilua, reprit avec conscience, couche par couche. Il était seul, n'avait de compte à rendre à personne désormais. Au fond de lui dormait le vague espoir de réussir son arnaque, d'abuser la terre entière et d'être enfin riche. Alors en calèche, il viendrait reconquérir Sophie, l'arracher aux bras de cet Apollinaire. La journée se passa ainsi. Béroux, en un état second, ne leva pas la tête de son tableau. Peu à peu, une troublante Joconde apparaissait, plus vraie que la vraie. Une sœur montée de l'enfer et qui semblait en rire, une succube vieille de 500 ans, vampire et immortel. Il avait réussi. Et demain, il irait enterrer la Joconde, enfin, ce qu'il en restait, dans la malle, au fond du cimetière de Montmartre. comme le sergent Bertrand ou l'horrible Victor Hardisson, les nécrophiles de légende qui fréquentaient la nuit les cimetières, il allait escalader les murs d'enceinte, creuser un trou dans une parcelle solitaire et enterrer l'immortel. Quand d'autres déterrent les mortes pour en jouir, c'était probablement la meilleure solution. La malle, tant pis, il allait la condamner, la sacrifier à ce noble usage, indestructible, quasi imputrescible. Elle garderait ainsi son secret au long des siècles à venir. Et lui n'aurait pas ce meurtre sur la conscience.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Jeudi 24 août 1911. Sophie, réveillée par le facteur qui apportait le pneumatique, avait fait ses affaires dans la précipitation. Guillaume, elle l'avait vu la veille en réalité. Elle sortait de chez lui quand elle avait surpris Bérou devant sa Joconde. et dire qu'elle rentrait habitée d'un sentiment de culpabilité, toute prête à se jeter dans les bras de Bérou. Oh, elle ne lui aurait rien avoué, évidemment, mais elle s'en voulait d'avoir été faible. Le Guillaume ne lui déplaisait pas, c'était un fait, mais des sentiments forts l'unissaient encore à Bérou. Fort, enfin réel. C'était grâce à lui qu'elle avait quitté sa province, avec lui qu'elle était devenue femme. Enfin, avec lui plutôt qu'elle était passée de l'autre côté, renonçant à toute respectabilité. La jeune fille de bonne famille était devenue maîtresse bohème, amante d'un peintre, gourgandine. Oui, dire qu'elle revenait toute douce de chez Guillaume pour trouver son peintre aux prises encore une fois avec sa brune. Pour elle, ça faisait pas un pli. Comtesse, joconde, ancienne maîtresse, c'était un même panier. Elle lui avait offert sa jeunesse, son amour, et lui, dès qu'elle avait le dos tourné, rêvassait devant une autre. Elle le prenait ainsi et pas autrement. Ce matin donc, la coupe était pleine, et puisque cet Apollinaire insistait tellement, bah, il tombait bien, voilà. Elle allait courir le rejoindre. Après, elle verrait bien. Elle avait pris une calèche que son nouvel amant paierait à l'arrivée, pour la rue Gros, dans le 16e, là où résidait Apollinaire. Le poète y vivait seul avec son secrétaire, le fameux Géry Pierret, dont la douteuse moralité et les habitudes de hâblerie lui causaient tant d'ennuis. Une Sophie qui, à l'annonce de la rupture, avait tout de suite pensé « Eh bien tiens, dame, qu'elle console Bérou, ils feront la paire !» Même si, bien sûr, elle n'en pensait pas un mot. Et au fond, même si elle laissait Bérou seul, elle n'avait aucune envie qu'il se console avec Marie Laurencin, ou avec quiconque. Pour elle, la Marie Laurencin n'avait été qu'un épisode dans la vie d'Apollinaire. Celui-ci, de toute façon, voulait la quitter depuis longtemps. Elle en était persuadée, mais par lâcheté, il temporisait, voilà. Et si Marie Laurencin avait mis les voiles, c'est que... Elle le croyait pour sûr, le poète ne lui avait laissé d'autre choix, voilà. Bérou, lui, avait mené son projet à bien. C'était l'été, certes, mais pour son malheur, cette nuit-là, une nuit noire et méchante, il pleuvait. Un de ces orages violents qui évoquent la fin du monde. Cela dit, et après tout, à quelque chose, malheur était bon. Certes, il avait été trempé à travers le MacFarlane qu'il avait endossé, mais la terre meuble avait été plus facile à fouiller. Il avait escaladé le mur, s'était laissé tomber de l'autre côté, avait crapahuté dans un coin isolé du cimetière, creusé un trou profond avec la pelle qu'il avait pris soin d'emporter et enterré sa malle de peintre. Voilà, toute preuve avait disparu. Il pouvait venir et fouiller chez lui, il était innocent comme l'agneau qui vient de naître. Vendredi 25 août 1911. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'affaire ne se calmait pas. Elle prenait même une ampleur insoupçonnée. Au Louvre, on fouillait désormais les visiteurs, ce qui semblait particulièrement stupide maintenant que l'oiseau s'était envolé. Dans les journaux, l'affaire du Maroc, les tribulations de la guillotine qu'on doit installer à la prison de la santé, tout cela passe au second plan. Il n'y en a évidemment que pour Mona Lisa. Déjà, les hurluberlus se manifestent, désireux de se faire remarquer ou de toucher la prime. Surtout depuis que le Matin a promis une récompense de 5000 francs à tout occultiste, nécromancien, chiromancien, sar, mage ou fakir, qui, par des moyens empruntés à l'au-delà, permettrait de retrouver la Joconde. Le préfet Lépine, lui, n'arrête pas de bramer. « Mais je vous dis qu'un visiteur l'a roulé et est sorti ainsi !» Même si on lui murmurait à l'oreille et plus d'une fois que l'objet est peint sur bois et ne peut donc pas être roulé. Chacun ricane. Le Lépine, il devrait arrêter la morphine. Sa funeste habitude l'endort. Lui, Bérou, lui, s'était réveillé devant une nouvelle Joconde plus vraie que nature. Aussi compromettante que la vraie. Il ne s'agissait plus là d'une copie, mais d'un faux. Ce qui faisait toute la différence, il ne le savait que trop. Il décida donc de conclure. Il coinça le mince panneau de bois verni à peine sec entre torse et chemise et sortit ainsi. Cela le gênait pour le moins, cela arrivait au col, quasi, prenait toute la taille de son torse. Il avait eu peur que le tableau dépasse, qu'il ressemble à ces hommes sandwich qu'on voyait sur les boulevards. Mais non, ça colle. Tout juste, mais ça colle. Il reboutonna soigneusement son haut gilet, veste fermée, on ne voyait rien. Il allait la porter à Armand. Voilà. Inutile de temporiser plus longtemps, comme il lui avait pourtant suggéré. Tout en descendant le boulevard vers Clichy, via la Fourche et Brochamp, il lui semblait que le précieux trophée le brûlait. Il s'attendait à être arrêté à chaque moment. Il parvient ainsi, place de Clichy, inquiet et transpirant, et commande à un Armand surpris de le voir le traditionnel boc. Tout est consommé. Armand l'interrogeait du regard, ne comprenant pas la phrase. « Oui, on peut faire affaire. » Il montre alors à Armand son gilet à travers le veston, lui faisant comprendre ainsi que la Joconde, il l'a porté sur lui. Et puis il lui désigne le chemin des water closets. Encore une fois, il sait bien, oui, que l'autre peut le doubler, prendre la Joconde et disparaître. Il y a pensé déjà, mais comment faire autrement? Une fois entré dans l'étroit et peu ragoûtant espace, il se déboutonne, ôte son œuvre, la touche une dernière fois et dire que peinture et vernis sont à peine secs. Et finalement laisse le tableau tout près des toilettes à la turque et ressort. Armand rentre juste après lui. Les deux hommes se sont compris. C'est un Armand tremblant qui remonte bientôt et lâche à Bérou. Demain, 7 heures du soir, j'aurai l'argent. Bérou remonte alors par où il est venu, pour apprendre par la dernière édition de la Revue des Deux Mondes, bientôt relayée par toute la presse, qu'Apollinaire avait été arrêté. Son secrétaire du moment, Géry Pierret, est soupçonné. N'avait-il pas volé quelques semaines auparavant des statuettes égyptiennes en ce même Louvre? On pense qu'Apollinaire est complice. Pour faire bonne mesure, on a également arrêté son ami Picasso. Apollinaire au quai des Orfèvres. On l'interroge. Il va être incarcéré. Bérou n'en revient pas. Et évidemment, panique. Sophie, mon Dieu. Sophie qui sait tout. Ils vont lui poser 1000 questions. Ça va pas faire un pli. Et qui sait si elle ne va pas vouloir dédouaner son nouvel amant? Et où est-elle en ce moment, puisque le nouvel homme de sa vie n'est plus libre? Est-elle restée chez lui? Lui a-t-il laissé de l'argent? En a-t-il eu simplement le temps? Il faillit même aller rue Gros chez Apollinaire, frapper à la porte et se renseigner. Après tout, cela pouvait être l'opportunité parfaite pour récupérer Sophie, enfin, essayer. Mais il renonça cependant vite, de peur de se jeter dans la gueule de quelques loups policiers, par amour propre aussi. Mais si Sophie se manifestait, l'appelait au secours... Samedi 26 août 1911, 7 heures. Comme prévu, Armand Guénéchamp avait l'argent, 800 000 francs en liquide, dans une méchante enveloppe, qu'il laisse à un Bérou qui n'en revient pas, et les empoche sans un mot. Mercredi 30 août 1911, Apollinaire, c'est évident, ne sait rien. Il est néanmoins emprisonné, son ami Picasso toujours inquiété. La presse, il est vrai, le Figaro en tête, ne parle que de ça. Depuis qu'il l'a appris, Bérou, vêtu de neuf, ne peut s'empêcher de traîner du côté de la rue Gros, mais nulle nouvelle de Sophie. C'est de l'estaminet où il sirote sa suze, juste en face du domicile d'Apollinaire et devant un kiosque à journaux, que le titre de la Gazette de France l'interpelle. « Armand Guénéchamp, un garçon de café, sait où est la Joconde. » Bérou tremble et achète le journal. Armand a tout balancé, mais l'a épargné. On ne parle pas de lui, mais du russe et d'un prétendu domestique envolé qui aurait fait le coup. La police ne semble pas prendre cette dénonciation au sérieux, mais comment savoir? Bérou va vivre les jours qu'il attend dans l'angoisse. Ah, pour cela, on parle de lui. Hein. Il est devenu le peintre qui a découvert le vol de la Joconde. Il le devine. Son œuvre, quant à elle, ne... Quelle œuvre? Il n'a jamais terminé le tableau de Sophie se mirant devant la vitre du coffret où dormait la Joconde. Épilogue. Pendant 2 ans, les choses en restèrent là, la simèse vide et une attraction. Mais Homol le sait, il doit faire revenir Mona Lisa un jour ou l'autre s'il veut conserver son poste. On l'a trop raillé, humilié, le scandale a été trop grand. Jusqu'à ce qu'une Joconde réapparaisse comme par miracle, entre le Titien et le Corrège, l'espace vide est de nouveau comblé. Un certain Vincenzo Perugia s'est dénoncé. Cet ouvrier vitrier l'avait volé, prétendait-il, ce fameux 22 août 1911. Un jeu d'enfant, et l'a restitué. Mais d'où sort cette Joconde tombée des nues? Une de ses copies faites par un élève de Vinci? Retrouvé dans les caves du Prado, par exemple, ou même simplement un travail de copiste, d'étudiant? Allez savoir. Bérou, chaque jour, s'en va au Louvre la regarder. Il ne peut s'en empêcher. Il ne peint plus guère, il vit chichement de ses rentes. La vente de sa Joconde aura au moins servi à cela. Souvent, ça remonte, le désir de peindre. Il se lance alors dans quelques esquisses, quelques crayonnés hâtifs de Sophie, sur des cançons qu'il jette ensuite inexorablement. Chaque fois, le sourire de la jeune femme blonde se transforme en un rictus de Joconde. Alors au Louvre, en pèlerinage obscène, il marmonne inévitablement entre ses dents. Ce type qui a fait ça est un sagouin, il n'y a pas d'autre mot. Quel faux grossier ! Et s'en va. Parfois, il croise le regard du Russe qui, claudiquant, vient là, lui aussi, un regard muet et lourd qui en dit trop. Jamais les deux hommes ne se sont parlé.
Eh bien, merci Catherine pour cette superbe histoire de la Joconde. En fait, je m'en doutais que c'était un faux.
Au Louvre, hein, on reconnaît. Hein.
Oh, ça se voit.
Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est visible.
On va peut-être y retourner quand même.
Oui, pour vérifier.
Voir de plus près. Eh bien, merci beaucoup. Donc, au mois prochain, pour une
Tout
nouvelle
à fait.
Lecture. Cette fois, ce sera le tour d'Hervé.
Eh bien, je pense, oui, oui.
Hervé, as-tu une petite idée de ce que tu vas lire?
Allez.
Eh ben non, toujours oh, pas.
Je suis sûr.
Vous verrez
le mois
prochain. Oui, c'est possible que
c'est
je commence
triste,
à savoir un petit peu, mais vous verrez, vous verrez, vous verrez. Ça ne sera pas une nouvelle, ça c'est certain.
Bon. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir, chers auditeurs, et au mois prochain.